France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On n'a pas tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
C'est drôle, la semaine dernière, nous avons commencé par la fin. L'intelligence artificielle au cinéma. Alors ce matin, rembobinons, revenons à l'image originelle, celle du geste de l'homme sur ce qu'il regarde vraiment. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Dans 4 jours exactement, nous fêterons le 130e anniversaire du premier tournage de film. 19 mars 1895, vers midi, à l'heure où les ouvriers sortent pour aller déjeuner. Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Ce lieu de tournage, celui de la sortie des usines Lumière, fait désormais partie de l'Institut Lumière que vous dirigez, une adresse unique au monde, rue du premier film. Et ce matin, nous évoquerons avec vous ce deuxième film que vous avez réalisé pour célébrer l'invention des frères Lyonnais Lumière. L'aventure continue, un tour du monde en 120 films, restaurés inédits sur nos écrans mercredi prochain. 130 ans plus tard, c'est la même histoire, des films sortent, beaucoup, parfois trop de candidats, et peu d'élus, et cette semaine encore, il va falloir choisir. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinématographe. Tout était déjà là. La comédie, le drame, le jeu des acteurs et le visage des enfants, les travelling en bateau et les panoramas en tramway. Une centaine de vues lumière inédites et restaurées offrent le spectacle intact du monde au début du siècle. Ce retour extraordinaire aux origines du cinéma dit aussi que le voyage ne s'est jamais arrêté et que l'aventure continue.
Ainsi démarre votre film, Thierry Frémaux, Lumière, l'aventure continue. Après le premier opus, Lumière, l'aventure commence. Le spectacle intact du monde, dites-vous, en mouvement. Alors on va évoquer celui que vous appelez le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes, Louis Lumière. À 17 ans, en 1881, il invente un procédé de photo instantanée. C'est ça qui assurera la fortune de la famille. Et il y avait déjà l'idée d'animer ces images qui étaient dans l'air du temps. Est-ce que c'était une course contre la montre à l'époque ?
Alors lui, il n'avait pas, c'est son père qui assiste à
Antoine,
Paris d'ailleurs, à la fin de l'été 1894, à une démonstration du kinétoscope de Thomas Edison, qui était une machine... où on pouvait voir quand même une petite image animée, un film, mais sur un très petit format. Puis pour l'avoir, il fallait payer.
Donc c'est... Et il n'y avait qu'un seul spectateur.
Un seul spectateur.
Devant son écran.
Devant son écran, il mettait une pièce de monnaie, voilà. Donc à l'américaine. Et à la française, Antoine Lumière dit, mais non, il faut projeter ça pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs, Edison va rapidement dire, mais il est fou le français. Alors donc, il montre ça à tout le monde, il contrôle même pas si les gens ont payé ou pas. Puis surtout, une fois qu'ils auront vu les films, ils ne reviendront pas. D'où l'idée que Lumière a eu de réaliser et produire plein de films, 2000 en tout.
Cet automne 1894, et en une nuit, Louis, comme dit son frère Auguste, invente le cinéma. On va écouter Louis Lumière, c'est quand même un son incroyable.
Quel est donc le système d'entraînement que vous avez proposé ?
J'étais un peu souffrant, et j'avais dû garder le lit. Une nuit, où je ne dormais pas, la solution se présenta clairement à mon esprit. Elle consistait à adapter aux conditions de la prise de vue le mécanisme connu sous le nom de pied de biche dans le dispositif d'entraînement des tissus des machines à coudre. Dispositif que je réalisais d'abord à l'aide d'un excentrique circulaire que je remplaçais bientôt par le même organe mais triangulaire. Comme il était alors impossible de se procurer en France les films sur celluloïd transparent, je fis mes premiers essais avec des bandes de papier photographique fabriquées dans nos usines. Je les découpais et les perforais moi-même. Les premiers résultats furent excellents, comme vous avez pu le voir.
Thierry Frémaux, est-ce que c'est pas l'œil humain qui invente le cinéma avec la persistance rétinienne? C'est nous aussi qui inventons ce déroulement et ce mouvement?
Oui, oui, absolument. Le principe de ces images séparées par quelques millièmes de seconde de noir nous permettent de reconstituer la perfection du mouvement, l'idée de la netteté, et tout ça. Mais c'est très beau d'écouter Louis Lumière. C'était un inventeur, quoi. Il avait tout le temps des tournevis dans son manteau. Il essayait de résoudre des problèmes. À la fin de sa vie, il voulait inventer le sel en couleur, parce qu'il disait le sel est blanc, le riz est blanc, et quand on sale son riz, on ne voit pas ce qu'on fait.
Donc
il y a un côté j'y retrouve tout.
C'est ça.
Et je rappelle surtout que, contrairement à l'un des nombreux clichés, légendes, belles histoires qui entourent celle-là, il n'arrête pas le cinéma parce qu'il n'y croit pas. Il arrête le cinéma parce qu'il veut inventer la photographie en couleur.
C'est ça.
Et le type qui a inventé le cinéma a aussi inventé l'autochrome.
L'autochrome, qui est une merveille. Et là, c'est quand même la machine à coudre. Hein. Il dit, à l'origine, c'est une machine à coudre. Faut l'entendre comme ça. Hein.
Oui, oui. Ils avaient ça comme problème.
C'est ça.
Le problème du mécanisme d'entraînement de la pellicule, d'entraînement, d'immobilité, de réentraînement. Et en effet, c'est celui de la machine à coudre.
Bah d'ailleurs, on va écouter le... C'est ça, alors. Ça, on l'a repris de votre film. C'est le bruit qu'on entendait quand on voyait ce film.
C'est le vrai bruit, ça.
Et à partir de quand la musique est arrivée? Tout de suite, il y a eu des pianistes pour animer les films?
Alors, tout de suite, il y a eu de l'ambiance dans les salles. D'abord, il y a eu des hauts,
ouais, c'est ça.
Une espèce de stupéfaction.
Le train arrivait en gare.
Oui. Alors, le train de la Ciotat est plus tardif.
C'est pas le premier, vous avez raison.
Mais oui, évidemment. Tout de suite, il y a eu des choses. Et puis, surtout, tout de suite, il faut le dire, moi, je m'occupe de lumière, mais très rapidement, ils ne protègent pas l'invention.
Ouais.
Donc, chacun fabrique ses propres cinématographes. Et donc, plein de gens se mettent à faire du cinéma, dont Méliès rapidement, Alice Guy, etc. Et oui, assez rapidement, il y a eu
un pianiste, au moins un pianiste.
Le premier tournage, donc, c'est la sortie des Usines Lumière. J'ai l'impression que ça reste encore un mystère, ce film, pour vous. Comme si vous découvriez chaque année, Thierry Frémaux, des nouvelles choses dans ces images. D'ailleurs, dans une expo qui est consacrée aux photogrammes du film, vous avez zoomé dans ces images, vous avez isolé des personnages.
Il y a trois versions, il faut le dire.
Il y a trois versions, c'est pour ça que pour rire, mais pas seulement, on dit que Lumière, en inventant le cinéma, il invente le remake. Et il y a trois versions de version. Printemps, mars, donc, celle du 19, une version été, très nettement ensoleillée, et une version automne. Et tout ça se fait globalement, il y a même une quatrième version qu'on a découverte, et puis nous, on a comme tradition à Lyon de faire retourner à des grands cinéastes leur propre version de la sortie d'usine, et puis là, mercredi prochain, 19 mars, à Lyon, chaque année, le public, donc les avocats en robe, les joueurs de l'Olympique Lyonnais, l'équipe municipale, des familles viennent à 25, petits-enfants, grands-parents, pour faire leur sortie d'usine. Et en effet, d'abord, on dit le 19 mars, on n'est pas sûr. On sait que ça ne pouvait être qu'entre le 15 et le 20 mars, et le 19 était le seul jour où il ne pleuvait pas.
Voilà.
Donc on a décidé...
Par rapport à la lumière qu'on voit...
Par rapport à la lumière,
ils sont sans parapluie.
Puisqu'on est à l'extérieur. Et la version qui est la plus belle, et celle qu'on peut préférer, c'est celle quand même où un homme ouvre la porte. Les portes s'ouvrent sur la sortie d'usine, les ouvrières, les ouvriers, et sur l'histoire du cinéma. C'est quand même assez beau, cette idée-là, que le premier film, donc de cette image en mouvement, est un cortège. Donc il n'y a pas un photogramme qui ressemble au suivant ou au précédent. Et puis que le premier personnage, ce sont les gens.
Le mouvement, il est humain.
Le mouvement
est humain. La caméra ne bouge pas.
La caméra ne bouge pas. C'est même plus que ça. Ils n'ont pas de viseur. Donc ils doivent deviner leur cadre en fonction de la focale et de ce qu'ils savent que la caméra va embrasser comme largeur d'image. Et puis c'est très beau parce que les gens font les imbéciles. On pense qu'on leur a dit de ne pas regarder la caméra, puisqu'en fait ils le font.
Ils s'en privent pas.
Ils le font, mais en cachette.
En douce.
Donc plus on voit ces films-là, la musique, la littérature, la peinture, on ne sait pas où ça a été inventé, on ne saura jamais. Le cinéma, il n'en déplaise aux Américains, c'est là.
9 mois plus tard, c'est quand même fou cette année-là, 9 mois plus tard, le 28 décembre, au Salon Indien du Grand Café à Paris, a lieu la première projection. Non, mais il fallait penser déjà de vraiment de le mettre
ça,
en place.
C'est aussi le père. Hein.
Oui.
Parce qu'il y a dans la légende familiale, il y a aussi Louis qui revient voir son père un an plus tard, donc à l'automne 95.
Ouais. Disant,
maintenant, on l'a inventé, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est le père qui dit, mais moi je m'occupe de tout.
Le commerçant, quoi.
Un peu le commerçant.
Ouais.
Mais en même temps, quand on regarde la correspondance de Louis, il avait quand même déjà pensé à toute l'exploitation et déjà pensé à envoyer les opérateurs.
Au Salon Indien, 10 films projetés, dont La Sortie, L'Arroseur Arrosé, Le Repas de Bébé, 33 entrées payantes. Et parmi les spectateurs, Georges Méliès.
Le contact réel a été établi entre moi et M. Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Bérouda. Il venait voir au-dessus de chez nous un photographe, M. Clément Maurice, qui fut plus tard son opérateur. Et comme il me connaissait de vue, il me dit « Dites donc, M. Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. Pourquoi ?» lui dis-je. « Mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous êtes patron vous-même. »
Vous y êtes allé ? Mais vous avez été épaté?
Naturellement, tout ce qui a de plus épaté. Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelques temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous, quelques minutes après, un train s'est lancé, et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire, nous étions tous, je dois dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien.
Et vous avez jamais pensé à votre public?
Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire. Un truc extraordinaire.
Il va bien en faire son affaire, Georges Méliès. Le succès, en fait, arrive très vite, Thierry Frémaux. Hein, après, il faut alimenter les salles. Donc, ils achètent 200 caméras. Donc, ils y croyaient.
Il fait fabriquer
200 caméras.
Il en reste quelques-unes. D'ailleurs, qu'on a au musée.
Combien il en reste?
Oh, il en reste quelques dizaines,
ouais.
Mais dans le monde entier. Ouais. À l'Institut Lumière, nous en avons plusieurs. La Cinémathèque française, Laurent Manoni, le grand historien du cinéma des origines, veille également sur ce matériel-là. Et oui, tout de suite, il comprend qu'il faut alimenter les salles, il faut donc faire des films, les tourner, les montrer, les dupliquer. Et il a cette idée assez folle, dès janvier 1896, d'abord de faire des films qui sont déjà une sorte de fiction. Il y a un Pierrot qui ressemble déjà à Sacha Guitry qu'il tourne. Et puis, il envoie des opérateurs, des jeunes gens, qu'il recrute par petites annonces dans le Progrès de Lyon, cherchant jeunes gens qui n'ont pas peur d'un métier d'aventure et d'une existence précaire.
Oui.
Et il les envoie à travers le monde, à Tokyo, à Mexico, à Madrid.
Alors qu'il c'est ça qui est incroyable, parce qu'il aurait pu se contenter de la France.
Ouais.
Il va aussi le faire en France.
Il le fait, concomitamment, ils vont dans le monde entier.
Je le dis d'ailleurs dans le film, c'est que d'emblée, le cinéma va me dire qui je suis et me dire qui sont les autres.
Ouais, c'est ça.
Et tout à coup, il faut imaginer l'effet que fait sur des spectateurs occidentaux des films tournés à Tokyo, en Indochine, au Vietnam, ce qui était à l'époque l'Indochine française, ou à Mexico, ou à New York. Et ça, c'est assez fou. Ça a beaucoup compté dans le succès. On voit d'ailleurs dans les programmes de cinéma, dans les archives de l'époque, les journaux redemandaient. Il y a des films qui avaient déjà plus de succès que d'autres.
Autant d'opérateurs, autant de points de vue.
Autant d'opérateurs, autant de points de vue, autant de talents, autant d'idées. Ils n'étaient pas tous très bons, enfin plutôt il y en a qui sont meilleurs que d'autres, parmi les plus célèbres, Gabriel Vert, Alexandre Promio, etc. Et avec, oui, des idées, mettre tout à coup la caméra sur un train, mettre
un trottoir roulant,
la caméra à l'arrière d'un tramway.
Ouais.
Donc, à l'époque on appelait ça le panorama, mais c'était un travelling arrière.
Ouais.
Et à chaque fois, les panoramas sur le port d'Alger sont inouïs de beauté. Pierre-William Glenn, le chef opérateur de Truffaut et de Tavernier, m'avait dit un jour, il m'a dit, demande-moi de refaire le même mouvement d'appareil, je ne ferai pas mieux. Il faisait déjà des mouvements d'appareil parfaits, dans le cadre, la stabilité d'image, etc. C'était le cinéma. Le truc aussi, c'est que les films lumière ne se racontent pas, ils se voient. Derrière. Parfois, il n'y a pas une histoire, un début, un milieu, une fin. C'est la beauté qui tient de de qualité et de force.
Parfois, il y a une petite dramaturgie.
Oui, ils ont aussi fait ça très rapidement, à l'arroseur arrosé, issu à la fois d'une bande dessinée populaire à l'époque, mais aussi d'une blague du jeune Édouard Lumière. C'est le premier gag, oui, la première comédie.
Et le premier acteur, il est payé, le jardinier.
Les deux premiers acteurs.
Les deux premiers acteurs.
Avec un splendide regard caméra, genre, on a été bon.
Il y en a qui doutent parfois du talent de ces opérateurs, ou même des notions de mise en scène, un peu comme Éric Rohmer face à Jean Renoir, qui l'interroge.
Ce qui me semble intéressant, c'est que la tendance lumière, est, toute motivée qu'elle est par le simple désir de reproduire la réalité, n'en est pas moins une porte ouverte à l'imagination la plus débridée.
Et pourtant, dans ces films, il n'y a aucun des éléments de ce qu'on a l'habitude d'appeler le langage cinématographique.
Certainement pas. Mais est-ce que le langage cinématographique n'est pas une invention commode pour expliquer nos désirs et nos rêves?
Oui, il n'y a pas de choix, par exemple, du cadre, de gros plans ou de plans éloignés. Tout est fait du même point de vue. Alors,
qu'en savons-nous? Parce que ça n'est pas parce que l'opérateur, humble serviteur de la réalité, placer sa caméra sans se dire « Ah, tel angle, ça n'empêche pas que l'angle n'était l'œuvre de son talent, inconsciemment. »
Vous êtes d'accord avec Jean
Renoir ? Oui, je suis d'accord. Alors, à l'époque, Rohmer et Renoir, même si Louis Lumière avait déposé une partie de ses films à la Cinémathèque française, c'est là qu'ils les ont vus, n'ont pas tout vu et ne pouvaient pas en parler de cette façon-là. Et puis, on ne parlait pas de cinéma non plus tout à fait comme aujourd'hui. Évidemment qu'aujourd'hui, on sait qu'ils font du cinéma avec ce que le cinéma est, c'est-à-dire encore rien, mais ils vont, à grands pas, le faire avancer. En fait, la vraie question, la vraie force, c'est que les opérateurs lumière, et Louis pour commencer, se posent des questions de cinéma. J'ai une caméra, j'en fais quoi? Je raconte quoi? Et je le raconte comment? Et première chose, je la mets où? Et quand on voit, par exemple, le lancement d'un bateau, il la met là où, 100 ans plus tard, James Cameron la mettra sur Titanic, c'est-à-dire dans une sorte de contre-plongée. Il ne se met pas à la place des spectateurs qui regardent le bateau, il se met à la place de la caméra qui regarde les spectateurs qui regardent le bateau. Et,
il pense le cinéma avant le cinéma, quoi.
Il pense le cinéma avec ce qu'il a, ils écrivent avec la caméra.
Ouais.
Et beaucoup de cinéastes, Arnaud Desplechin, m'a dit, en voyant ce film, il m'a dit, mais moi, il y a des plans d'une simplicité à laquelle j'aspire. On revient à, vous savez, à Picasso qui disait « Toute ma vie, j'ai essayé de peindre comme un enfant. » Il y a quelque chose d'une ingénuité qui n'est pas de la naïveté, mais qui est de... on essaye plein de choses. Et ce qu'ils vont essayer, en effet, Renoir a raison, dans la restitution de la vie, mais dans la transfiguration de la vie en disant la beauté du monde, c'est déjà du cinéma.
Mais déjà, où mettre la caméra, c'est la première décision de mise en scène. Où la poser.
Et il y a plus que ça aujourd'hui, en 2025, pour en parler, c'est que la caméra vous oblige à prendre vos responsabilités. C'est-à-dire que ce que je vais filmer, je vais devoir l'assumer. Aujourd'hui, le cinéma est partout. Les gens qui font des posts Instagram et des trucs TikTok, c'est du montage, c'est du langage cinéma. Mais, bien souvent, et hélas, sur les réseaux sociaux, où l'anonymat règne, on ne prend pas ses responsabilités. Et sauf à ce qu'on découvre un jour que les snuff movies existent, mais on ne l'a jamais découvert, le cinéma n'a jamais filmé la mort, et vous allez sur Internet et vous voyez la mort, vous voyez les choses terribles, les gens décapités, etc. Le cinéma, vous êtes responsable de vos images, et vous faites attention à ce que vous filmez.
En fait, les termes n'existaient pas encore, mais ils faisaient des travelling, alors qu'on ne disait pas encore travelling. Il y avait une profondeur de champ, il y avait l'arrière-plan. Quand vous dites, ils ont inventé l'essentiel, en fait, ou pas?
Oui, alors loin de moi l'idée de dire ils ont tout inventé.
Non, c'est pas tout inventé. Annonce,
mais oui, il y a par exemple une vue formidable de militaire. C'est un plan séquence. Il faut d'abord regarder à tel moment, dans tel endroit de l'image, à tel autre moment, puis un troisième temps, puis la fin. Donc, il se pose ces questions-là d'intéresser le public. C'est aussi une manière. Le cinéma, en effet, a eu du succès. Il a eu du succès avec les salles Lumière, il a eu du succès après avec tous ceux qui ont fait du cinéma à leur façon. Je pense aussi que Lumière, à la fin, a dit « j'ai laissé ça aux artistes ». Oui, mais moi je considère qu'il en était un lui-même.
En même temps, et il ne filme, il n'y a pas de hasard quand il filme. On va écouter Henri Langlois là-dessus.
Quand vous voyez, par exemple, dans un film de Louis Lumière, comme par hasard, il y a une question de chronomètre. Vous avez un film, il dure tant, puisque le plan dure tant. Bon, comme par hasard, ça commence avec un tramway qui entre dans l'image, à droite, puis il y a tout un mouvement, puis ça s'achève par un tramway qui entre dans l'image, à gauche. Vous croyez que c'est un hasard ? Pas du tout un hasard. Ils ont repéré, ils ont vu pendant un certain temps comment ça se passait, ils ont choisi le meilleur angle de prise de vue, et ils ont réussi la chose la plus extraordinaire, la chose qu'on a oubliée, c'est que dans ces quelques secondes, ils ont réussi à mettre dans une image, sans changer la place de la caméra, le maximum de plans. Vous avez des gros plans, vous avez des plans rapprochés, vous avez des plans américains, vous avez des plans d'ensemble, et vous avez un mouvement qui unit tout ça. Et ce n'est pas le hasard, c'est la science.
Bah oui, c'est... Langlois, d'ailleurs, a été le premier grand lumiériste, et c'est bien parce que lui, à sa suite Renoir qu'on a entendu, Jean-Luc Godard a dit des choses très très magnifiques sur le cinéma de lumière, et ça a légitimé, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'invention. C'est vrai que Lumière a une drôle d'image, pas tout à fait inventeur, ce serait Edison et plein d'autres, pas tout à fait cinéaste, ça commencerait avec Méliès. Or, il est tout à fait inventeur et il est tout à fait cinéaste.
J'ai l'impression, quand on voit tous les extraits que vous proposez dans ce film, qu'on voit le cinéma moderne entre... Vous voyez ce que je veux dire ? On voit Piala, on voit Bergman, je ne sais pas.
Ozu.
Oui, Ozu.
Au Japon, par exemple.
Oui, oui, alors évidemment, il ne connaissait peut-être pas tous les films Lumière, mais ça dit des choses.
Mais oui, ouais. Mais oui.
Que l'écho Lumière, oui. Genre, l'histoire ultérieure du cinéma...
Ou Coris Maquis même aussi.
Coris Maquis dit bien rétrospectivement que ce qu'il faisait, c'était du cinéma.
C'est l'écho de la lumière.
Alors ce sont des bourgeois, les Lumières, mais ils ont beaucoup filmé...
Oui, enfin, Coluche disait...
Ouais, les nouveaux riches et les anciens pauvres.
Oui, c'est pas des nouveaux riches, c'est des anciens pauvres. Parce que vous disiez tout à l'heure, Lumière invente à 17 ans un procédé photographique qui vaut la fortune à la famille.
Oui.
Jusque-là, le père, parole célèbre dans la famille, « Mes chers enfants, nous sommes perdus, je ne peux plus vous faire vivre ». Et ils deviennent riches grâce à ça, ils restent à Montplaisir, dans ce quartier de Montplaisir. Parce que quand même, les Lumières de Montplaisir ont inventé le cinéma, Edison ne pouvait pas lutter contre. Un jour, un gosse nous a dit, le premier film tourné à Lyon, c'est l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Comme quoi, ça fait aussi géographie, l'histoire.
Mais bien sûr,
mais oui, voilà, absolument.
Il y a beaucoup de films sur les ouvriers, d'ailleurs, il y a beaucoup de gestes ouvriers, mais gestes à la campagne aussi.
Parce qu'ils restent, eux, dans ce quartier ouvrier, il y a toute une œuvre photographique aussi chez Lumière, où on voit les mêmes thèmes. Moi, je tiens qu'il y a un imaginaire Lumière, qu'on voit aussi dans les autochromes, qu'on voit dans les photos 3D, en stéréosynthèse, mais que plus que ça, cet imaginaire Lumière, il y a quelque chose d'assez proustien. On est en 1900, en gros.
Oui.
Le monde pense qu'il va vers son bonheur. On sort du 19e siècle, de plein de guerres, il n'y en aura plus. Et l'avenir sera radieux. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Mais ce que eux ont retenu par leur film, par leur photographie, par leur manière de vivre, certes bourgeois, au même moment, Zola écrit Les Rougon Macquart. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose là de très, très, très unique qui dit que ce monde aurait pu aller mieux.
Avec le plan formidable des ouvriers qui construisent un mur. Et ils vont déconstruire les Frères Lumière, c'est-à-dire qu'ils vont rembobiner le film et on voit le mur se déconstruire. Ça, c'est un
plan extraordinaire. Et les ouvriers qui diront « les patrons sont des sorciers
». Dans les films Lumière, les gens qu'on voit, ce ne sont pas nos ancêtres, ce ne sont pas nos grands-parents, c'est nous, c'est Agnès Varda qui dit ça. Mais c'est vrai, c'est la preuve qu'ils ont existé, quoi. Ils bougent, donc ils ont existé. C'est stupide comme constat.
Oui, et puis c'est aussi l'idée que... Wim Wenders avait dit ça aussi, les gens se sont reconnus sur l'écran. Mais les gens de l'époque, et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est les gestes que les gens font, leur manière d'être, les regards caméra, des moments d'enfance, c'est nous jusqu'à aujourd'hui, et pour demain, pour toujours.
Est-ce qu'on assiste aussi à la naissance des acteurs ou pas?
Oui, oui, nous on a repéré des gens dont on ne connaît pas le nom, mais il y a des visages qu'on repère de film en film, des gens qui... Ils ont inventé un truc que tout le monde a fait dès les caméras Super 8, faire l'imbécile devant la caméra. Parce qu'on voit bien que... Ouais. Il devait y avoir des indications, allez-y les gars, faites-en des tonnes. Et il y a des films assez délirants. J'ai aussi inclus un film, parce que je ne voudrais quand même pas dire qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre, j'ai inclus un film raté. Un film où tout à coup la caméra est pas du tout à la bonne place. mais même ce film raté, il y a plein de choses à en dire.
Émouvant.
Parfois les acteurs, ça peut être un petit garçon dans une rue animée, tout d'un coup qui devient le personnage central.
Il y a un film à Stuttgart où la caméra est posée dans la rue. C'est une histoire de tramway, c'est un plan fixe, et tout à coup c'est les trois mômes qui vont en effet bouger devant la caméra jusqu'à la toiser, à défier le caméraman, les mains sur les hanches comme ça.
Oui, c'est ça.
On se croit, c'est les enfants qu'il était une fois en Amérique, quoi.
Absolument.
C'est une leçon d'histoire, en plus, le film aussi, parce qu'on voit plein de... Naples, Saïgon, Boston, Alger...
Oui, parce que quand ils vont au Japon, le Japon vient seulement de s'ouvrir, c'est l'ère Meiji.
C'est l'ère Meiji.
Ouais.
Le Japon vient seulement de s'ouvrir à l'Occident. Donc il y a quelque chose... Il faut quand même imaginer le choc que ça a été pour les gens à l'époque de voir ça. Et aussi, le cinéma, il y a un truc, et Méliès s'en souvenait. Aujourd'hui, on s'attend à ce à quoi on ne s'attend pas. L'intelligence artificielle, on ne sait plus où ça va aller. À l'époque, on ne savait pas. Donc, tout à coup, pour ça qu'il y a eu des déclarations cosmiques. La mort cessera d'être absolue, etc. Bah, pour les gens, ça les a inspirés, quand même, l'idée de se revoir à l'écran.
Donc, un jour, ça s'est arrêté.
Lumière un jour a arrêté parce qu'il voulait inventer la photo en couleur, et puis parce que le cinéma était partout, et puis parce qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. 2000 films, on peut considérer que ça va, que l'œuvre était accomplie. Et puis, en effet, on n'a plus revu les films Lumière au cinéma. Sauf dans nos maisons, à l'Institut Lumière, à la Cinémathèque française, etc. Et avec ce film, l'idée, c'est que dans les rues de Paris, de France, on voit une affiche de cinéma avec le mot « lumière ». Et que les gens, je l'espère à partir de mercredi, iront au cinéma pour payer leur place et pour voir des films lumière.
On les y incite vivement.
Restaurer à Bologne ?
Restauré à Paris, à Bologne, Lumière, en 46, Sadoul va le voir, il vit à Bandol, il est veuf, et lui dit, au fait, où sont les films? Et Lumière dit, ben j'ai tout gardé. Et donc, il avait tout gardé, donc tout a été bien préservé, et il y a 30 ans, pour le centenaire, on a réuni toutes les collections avec le CNC, avec la Cinémathèque française, bon, l'Institut Lumière, la famille, etc. Donc, on a le matériel, là, on a, avec Maëlle Arnaud, qui est la productrice du film et qui s'occupe aussi des restaurations, on en a restauré 500, il en reste donc 1500, avis aux gens riches qui nous écoutent, même pas seulement, parce qu'on cherche des moyens pour continuer à le faire. C'est un patrimoine universel, c'est pas à nous. On veille sur ça, mais on veut le rendre. On va d'ailleurs, plus tard dans l'année, ouvrir une plateforme pour que les gens, au-delà de ce que moi je peux raconter sur Lumière ou de la musique de Gabriel Fauré, ils pourront se faire leur propre visite au film Lumière.
Ça fait quoi de traverser le miroir, Thierry Frémaux? C'est-à-dire de sortir un film, vous vous retrouvez dans la position du cinéaste?
Ben oui, oui, ça c'est. Je vais vite retourner dans la salle de cinéma
certes,
voir les films des autres.
Donc vous comprenez encore mieux les enjeux.
Ah mais moi je les ai toujours compris, vous savez.
Certes, en les vivant.
Ah, en les vivant, oui. Alors, Bertrand Tavernier, qui était mon mentor, parfois je l'engueulais parce que quand il montrait un film, ben vous savez, on aurait dit qu'il voulait écrire les articles sur ses propres films, tellement il voulait. Mais non, mais tu n'as pas dit que. Bon, il était tout le temps là. Comme ça. Et c'est vrai que quand les gens commentent un peu les films, il y a des choses formidables auxquelles vous ne pensez pas. Et puis il y a parfois des gens qui ne savent pas parler de cinéma, mais c'est pas grave.
Mais tout d'un coup, vous êtes regardé, c'est pas vous qui regardez.
Oui, alors, c'est un film des Lumières.
Oui, non, mais certes, mais c'est vous qui avez fait le choix des
oui,
films,
bien
montages,
sûr, bien sûr,
etc.
Bien sûr. Mais je suis le seul réalisateur qui peut dire, c'est quand même des films sublimes. Hein. Parce que c'est pas Lumière.
Mon film est sublime.
Et moi, je reste en admiration devant ça. J'ai un truc dans l'œil sur la beauté. Ouais. Mais la beauté des films Lumière, c'est la beauté du monde. Et j'ai voulu, avec ce film, partager ça avec tout le monde.
Ouais. Lumière, l'aventure continue à regarder en salle.
Ah, oui. Je sais que je vais continuer à lutter en faveur du cinéma, car actuellement, en tant que réalisateur, nous devons lutter pour que le cinéma reste vivant. Nous faisons des films, nous devons faire des films pour qu'ils sortent en salle. Voir un film dans une salle est différent. On partage la tristesse, la peur, le rire, et on partage quelque chose avec nos amis ou avec des inconnus. C'est sacré. Donc je pense que l'avenir du cinéma, c'est là où il a commencé, à savoir dans une salle de cinéma.
C'est Sean Baker, bien sûr, qu'il a... Ça, c'était un son issu de Cannes, de sa Palme d'Or. Il l'a répété aux Oscars. Hein. Cinéma se voit dans une salle.
Oui, alors ça, on n'a pas parlé de ça, mais la deuxième invente... Lumière invente plusieurs fois le cinéma.
Ouais.
Il invente la technique, il invente l'art, il invente les salles de cinéma.
Ouais.
Et dans la deuxième partie de l'année, d'ailleurs, on va beaucoup parler de ça. Alors, il faut faire attention, parce qu'en France... La situation est quand même meilleure qu'ailleurs, alors on est très optimiste, mais soyons-le, d'ailleurs, on a entendu beaucoup de trucs, beaucoup de bêtises au moment du Covid, au moment du triomphe des plateformes, c'est fini le cinéma. Moi, quand je suis arrivé à Cannes, dans les années 2000, c'était le triomphe de Love Story. On me disait, mais c'est fini le cinéma, c'est la télé-réalité.
Ouais.
Et le cinéma, il en a pris des coups, et il a toujours survécu. Et plus on va vers un avenir où les images sont partout, et plus le cinéma reste singulier, car le mot cinéma, c'est les films, mais c'est aller au cinéma. Et Sean Baker l'a dit magnifiquement. C'est d'ailleurs aussi passionnant de voir que les Américains produisent des gros blockbusters, mais quand il s'agit de remettre l'Oscar du meilleur film, ça va à du cinéma indépendant.
Ça vous dit quelque chose, cette musique? Et voilà, on repasse juste la musique du dernier opus de Mission Impossible. Parce qu'on parle de Cannes en 2025, vous ne nous direz rien, mais voilà. Cette musique vous parle, Thierry Frémaux, ou pas?
Cette musique parle à tout le monde.
Oui.
Et cette musique parle aujourd'hui. Non, mais je vois où vous voulez.
À peu près.
Vous savez qu'à Cannes, dès qu'on est sûr, on annonce.
Oui.
Donc quand on n'annonce pas, c'est qu'on n'est pas sûr. Mais j'ai de bon espoir de voir en effet non seulement Tom Cruise, mais Christopher McQuarrie, qui est le réalisateur et le grand compagnon de création de Tom Cruise, revenir sur la croisette. Oui. Ça fait partie, de toute façon, en plus, Cannes, il y a des choses qui sont de l'ordre de la découverte, puis il y a des choses qui sont de l'ordre de la célébration.
Et une annonce le samedi matin, non ?
Non.
Non, mais rien.
Imaginez si je vous dis Mission Impossible sur Hakan et que ça n'arrive pas.
Oui, c'est ça.
Or, je vous assure que le jour où ça arrive et que j'en suis sûr, je vous le dirai.
En tout cas, il sera sur les écrans ce film Lumière, l'aventure continue à partir de mercredi prochain.
Courez le voir.
On se retrouve pour les sorties après Nick Cave and the Bad Seeds, Song of the Lake.
On the shore of the lake, the old man sat and watched a woman bathing. With its golden touch, the light was such that the moment was worth saving. And he sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses and oh, never mind, never mind. And he knew that he would dissolve if he followed her into the lake, but he also knew that if he remained upon the shore, he would in time evaporate. He sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses, oh, never mind, never mind. Such as described in the ancient scrolls, still he felt the drag of heaven.
sun, if there be one, seek it to be found. For there's either a remedy, or there is none. And if there is none, never mind, never mind. Never mind, never mind. Never mind.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Avant d'évoquer les sorties rappelées, l'exposition Un Monde Lumière à la Galerie Cinéma à Paris, des photogrammes issus des vues du cinématographe à partir de copies restaurées, une trentaine d'œuvres. L'expo est magnifique.
Merveille. On a envie de tout acheter, ouais.
Les historiens de la photo viennent voir ça parce que moi, ça m'intéresse.
Bah oui.
Là où ils mettaient la caméra, les photographes ne mettaient pas leurs appareils. Donc, tirer photo de ça donne une autre vision du monde.
On va commencer par Blue Sun Palace. C'est un premier film de Constance Tsang. À New York, un salon de massage chinois sert de refuge à Didi, Ami et leurs amis. Loin de leur pays d'origine, elles forment une vraie famille. Quand Didi disparaît, Tsang, son amant, tente de retrouver avec Ami, l'ami de Didi, l'espoir d'une nouvelle vie. Le deuil est une aventure solitaire, une réflexion déclinée délicatement dans ce film. De New York, on ne verra aucune image symbolique, habituelle de la ville, juste des bruits ambiants. Des rumeurs, tous les lieux du film, bar, resto, karaoké, sont investis par ces Chinois migrants. En fait, c'est un film chinois à New York.
Oui, alors il y a toute une première partie quasiment documentaire sur la vie de ce salon. C'est assumé comme tel, hein, et c'est évidemment intéressant. Mais à partir du moment où il y a un événement criminel qui se passe, le film bascule totalement dans la fiction, et le deuil et la reconstruction deviennent les thèmes principaux. Et la réalisatrice, c'est un premier film, fait appel fréquemment à des plans séquences pour manifestement laisser s'installer l'émotion. Moi, je trouve qu'elle a installé un climat étrange, presque pesant, tout en tenant la violence à distance, alors que la violence est bien là. Bref, on se dit qu'un univers cinématographique, je vais y arriver, se construit ici, et c'est une belle nouvelle.
Vers un pays inconnu, c'est une première fiction du Palestinien Mahdi Fleifel. Shatila et Reda sont deux cousins palestiniens sans papiers réfugiés à Athènes. Ensemble, ils multiplient les combines pour rassembler une importante somme qui leur permettra d'acquérir de faux passeports, sésame vers l'Allemagne. Jusqu'où peut-on aller pour une vie meilleure? C'est la question centrale de ce film. Du réel, le film dévie vers le genre, notamment le thriller. Pas de fraternité, pas d'entraide, mais deux hommes liés dans ce noir destin.
Ouais, il est même palestino-danois, le réalisateur. C'est dire si l'exil dont il parle, il connaît certainement, hein, relayé ici et raconté ici à travers le quotidien de deux migrants qui sont une sorte de Vitelloni un peu, hein, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois drôles et minables, parfois pas très recommandables, il faut le dire. Mais le film mêle avec beaucoup d'habileté des scènes comiques et des scènes beaucoup plus dramatiques, vous l'indiquiez. Ils iront jusqu'au bout de leur destin, ces deux-là, et pas forcément enviable, le dit destin. En tout, c'est un premier film au format carré, ce qui est un choix radical très beau, qui enserre les deux personnages dans ce cadre presque étouffant, qui est celui certainement de l'exil permanent.
La convocation de Halfdan Ullmann Tondel, c'est le petit-fils d'Ingmar Bergman, et de Liv Ullmann, son film. Lorsqu'un incident se produit à l'école, les parents des jeunes Armand et Yon sont convoqués par la direction, mais tout le monde a du mal à expliquer ce qui s'est réellement passé. Les récits des enfants s'opposent et les points de vue s'affrontent. Le Réal, qui a aussi enseigné, avait noté que les parents d'élèves utilisent leurs enfants comme des miroirs d'eux-mêmes. C'est exactement le thème du film, un huis clos, une mise en scène maîtrisée. Quelques effets de style assez voyants, une chorégraphie incertaine, pour ne pas dire inutile, un rire qui s'éternise. Pour éprouver le spectateur. Le film a eu la caméra d'or.
Exactement, il faut le dire, il faut le répéter, les caméras d'or qui récompensent les premiers films à Cannes. Huit clos dans une école, focus sur les parents, les enfants hors champ, ça c'est quand même un beau pari tenu. Discussion sur des faits qu'on ne verra jamais, là aussi c'est un beau pari. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma, je trouve, dans ce premier film, avec des acteurs absolument exceptionnels. Le film questionne et la subjectivité et notre rapport à la vérité, c'est donc passionnant de compléter. complexité, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Allez, la tragédie est là, elle est d'autant plus forte qu'elle se fait dans un contexte absolument quotidien qui nous parle beaucoup. Bon, l'esprit Bergman hein, n'est manifestement pas mort.
Avec l'actrice de Julien Duchapil qui avait eu le prix d'interprétation Renate Renzwey. Berlin était 42, Andreas Dresen. Alors que la guerre fait rage, ils deux rencontrent Hans. Elle tombe amoureuse de lui et s'engage à ses côtés dans une lutte clandestine contre les nazis. Le temps d'un été, il devivra l'exaltation d'une jeunesse qui refuse de subir l'histoire. C'est un récit inspiré de l'histoire d'Hilde Coppi, un montage alternant prison et passé, ombre et lumière, la dimension... Ici, cette fois, c'est la dimension humaine et intime de la résistance. Pas de musique, un film âpre, une jeunesse allemande prête à mourir pour ses idées. Un thème pas si courant au cinéma.
Ouais, on s'égrée au film de résister, sans jeu de mots, jusqu'au bout à la tentation du mal, c'est-à-dire à la tentation de faire dans le sensationnel, voire dans l'insoutenable. On pense à d'autres films sur la Seconde Guerre mondiale.
Pas une croix gammée dans le film.
Absolument. Non, c'est de ce point de vue-là, la musique est tenue. Moi, j'ai été un petit peu gêné et empêché dans mon émotion par la multiplication. Vous le disiez, on va parler technique, des flashbacks et des flash-forwards. Bref, effectivement, des allers-retours entre le passé et le présent. Et ça, je trouve que le procédé est assez artificiel et qu'il empêche, à mon sens en tous les cas, l'émotion de naître. C'est un peu dommage pour un très très beau sujet, quoi qu'il en soit.
Maintenant, on va parler d'un cinéaste que vous aimez beaucoup, Thierry Frémaux et moi beaucoup, et Laurent un peu moins, c'est Parthénope de Paolo Sorrentino. Le destin sur plusieurs décennies d'une jeune femme au nom de Sirène, belle, brillante, fascinante, et qui personnifie Naples, la ville de Sorrentino, déterminée et nonchalante, à la fois un amoureux transi, un frère fragile, un vieux professeur, et une femme qui passera à côté de l'amour. Si vous n'aimez pas Sorrentino, vous ne l'aimerez toujours pas. Si vous l'aimez, vous serez encore une fois sensible à cette réflexion sur le passé, la beauté des souvenirs, la beauté sur toutes ces images, la beauté que Sorrentino voit partout. C'est contemplatif et métaphysique. Je ne peux pas dire mieux, Laurent.
On saurait mieux dire.
Vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, non, pardon. Donc 137 minutes pour raconter la vie so chic de la petite Parthénope à Naples. 137 minutes pour y croiser son frère, incestueux, bien évidemment. 137 minutes pour que la belle soit également diplômée d'anthropologie, comme ça on n'en fait pas juste une décérébrée. C'est provoquant en permanence, puisque la belle, par exemple, fait l'amour avec un évêque. Mon Dieu, quelle provocation. Le tout dans une esthétique de clip publicitaire pour parfum ou voiture de luxe, c'est au choix. À force de vouloir, comme le veut Sorrentino, dénoncer la vulgarité, en fait, il la filme avec complaisance, cette vulgarité. Et c'est ça qui, moi, m'empêche énormément. Le film est saturé de travelling et de panoramiques dont je ne comprends pas toujours l'utilité, sauf à montrer une virtuosité. Au bout de 137 minutes, on sort épuisé et la baudruche, littéralement, se dégonfle.
Quand la jeune femme propose à Gary Oldman, le vieux professeur, d'aller se promener, il a cette réplique merveilleuse, il lui dit « Je ne vais pas te voler une minute de ta jeunesse ». C'est une des belles réflexions de ce film.
Je suis du côté de Christine Masson.
Mais je l'ai entendu.
En revanche, vous ne l'avez pas vu celui-là, Laurence, c'est la showgirl. Alors, parce qu'il y a une nouvelle Coppola dans le clan Coppola. Elle s'appelle Gia, c'est la petite fille de Francis et la fille de Giancarlo qui est disparue très jeune. Elle raconte le parcours d'une danseuse de cabaret expérimentée qui doit faire face à son avenir lorsque son spectacle à Las Vegas est brusquement interrompu après 30 ans de représentation. Danseuse dans la cinquantaine, elle peine à trouver quelle suite à donner à sa carrière et en même temps elle a des problèmes avec sa fille dont elle ne s'est pas beaucoup occupée pendant cette carrière. C'est Las Vegas version sombre. Peu de scénarios, pas mal de clichés sur la vie d'artiste, mais au centre du film, Pamela Anderson, une actrice qui semble jouer sa vie sur le thème de l'invisibilité des femmes passées un certain âge. Elle la joue si bien que ce pourrait être justement, ce film, le rôle de sa vie. Ça s'appelle The Last Showgirl. On va terminer avec un documentaire qui s'appelle Black Box Diaries de Shiro Ito. Alors, c'est un récit sur 8 ans à partir du viol qu'a subi cette femme en 2015 par l'ancien directeur du bureau américain de la chaîne télévisée Tokyo Broadcasting System, un journal intime, ce film, et une enquête, seule contre tous, contre cet homme puissant, proche du Premier ministre, contre le système médiatico-judiciaire, contre le machisme de la société japonaise, Laurent.
Oui, alors c'est un documentaire, hein, face caméra, la plupart du temps, la première personne du singulier, donc ça c'est déjà une démarche que je trouve absolument admirable. C'est glaçant du début jusqu'à la fin, tout simplement parce qu'effectivement ça montre cette société japonaise absolument bloquée, notamment notamment sur la question du viol et de sa criminalisation, le documentaire a eu l'immense avantage de débloquer la loi japonaise qui n'avait pas bougé depuis 1860 sur le viol, je crois. Donc c'est quand même comme quoi parfois le cinéma peut faire bouger le monde. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment le voir comme une sorte d'arme de destruction que l'on voudrait absolument massive, et ce qui n'est toujours pas le cas au Japon, puisque le film ne trouve pas de distributeur. Ouais. Il n'est pas montré aux Japonais.
Avant les cadeaux pour Thierry Frémaux, on va parler de deux festivals.
Oui, alors d'abord, vous pouvez aller à Pessac, en Gironde, du 19 au 25 mars, au bien nommé cinéma Jean Eustache, pour les rencontres du cinéma latino-américain.
42e édition,
mais ça marche. Les festivals marchent en France, ils sont bourrés de monde et c'est très bien.
Même formidable lieu, toute l'année.
Toute l'année, le festival Jean Eustache.
On a très peu de temps, Laurent.
Allez, festival du cinéma d'Alès, itinérance du 21 au 30 mars, 43e édition, là aussi, magnifique festival alésien, on y croisera notamment Ovidi et Sergi Lopez.
Un cadeau x3 pour Thierry Frémaux.
Oui, absolument. Fait par les éditions Tamaza. Je ne sais pas si vous avez vu, on a essayé de chercher des choses que vous n'avez pas vues. On s'est dit, c'est pas possible. Bon, c'est trois films de la Healing chez Tamaza, donc l'éditeur formidable de DVD. Il y a trois films, Le jour où mon destin s'est joué, Le bateau qui mourut de honte, et Ficelle rose et corde à cacheter. J'adore les titres français.
Grand moment du cinéma anglais des années 50, Tavernier adorait ça.
Et ben voilà, on est heureux de vous les offrir.
Merci beaucoup Thierry Frémaux. Le film Lumière, l'aventure continue sort mercredi prochain, puis il y a l'expo à Paris, à la Galerie du cinéma.
Allez-y.
Qui est assez belle aussi. On va remercier notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louis Tempero à la préparation et Thierry Dupin à la programmation musicale. Au revoir. Salut.